Mes bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices, vous qui écoutez ce message, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous et son esprit aussi. C'est vraiment avec un réel plaisir que je vais commencer ce message portant sur l'étude que nous avons commencée, sur la pensée que Dieu notre Père nous libère en cette saison. C'est le message du chapitre du livre d'Ésaïe, le chapitre 54 de notre Bible que nous étudions. Nous disions qu'en cette saison, donc, où l'Éternel, dans la grande majorité des assemblées, dans le corps du Christ de façon générale et partout, a appelé son peuple à s'investir dans une orientation d'élargissement, d'établissement, de conquête, d'accomplissement, d'expansion. Comprendre ce que Dieu dit à son peuple dans Ésaïe 54 serait édifiant et utile pour atteindre nos objectifs. C'est pour ça que nous avons commencé cette étude. J'ai voulu partager ce que j'avais reçu au travers de ce message cette année. Partager ça avec le peuple de Dieu et tous ceux qui sont dans cette mouvance, dans cet état d'esprit de conquête en cette saison-ci. Prions pour remettre ce moment au contrôle du Saint-Esprit pour nous guider. Père éternel, nous te disons merci. Oui, Seigneur, nous te glorifions et nous te rendons d'immenses actions de grâce de permettre des temps comme ceci. Un temps de partage au Père, un temps où nous avons soif de comprendre ta parole, où nous avons soif de rechercher les lois du royaume, les lois de ta justice et de les comprendre, Seigneur, afin que nous soyons édifiés dans notre marche avec toi, Père éternel. Nous apprécions ce moment, Père, et nous t'invitons à prendre le trône de gloire que nous érigeons, Seigneur, de Père Tout-Puissant, ta présence. Au cours de cette émission, au cours de ce partage au Père éternel, prends la place qui t'est due. Et que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le maître, l'expert en toutes choses, toi par qui nous sommes rendus capables d'agir, viens, occupe toute la place, prends les commandes et œuvrons pour la gloire de Père. Œuvrons pour que Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est venu rendre tout capable à la croix du Calvaire par son sang et par sa résurrection, soit glorifié. Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dans les messages précédents, nous avons développé l'instruction principale que l'Éternel donne, qui est d'élargir l'espace de nos tentes, d'allonger nos cordages et d'affermir nos pieux. Nous avons étudié les recommandations qui allaient avec parce qu'il nous a recommandé de nous réjouir d'avance par rapport à ce qu'il allait faire cette année. Nous avons pris connaissance dans les détails des promesses contenues dans les projets qu'il veut accomplir avec nous et de la ferme assurance de sa restauration qu'il nous donne. Ça fait l'objet des 3 ou 4 premiers messages qui ont été enregistrés. Et là maintenant, nous sommes rendus dans ce texte d'Ésaïe 54, nous sommes rendus au verset 11. Et notre propos va s'attarder sur le verset 11 et 12. Les 4 instructions qu'il donne à ce niveau, les 4 plans qu'il nous donne dans ces 2 versets sont assez longs à développer. Donc, peut-être ça ne prendra pas qu'un message d'une heure, peut-être ça prendra 2 messages successifs, mais au moins nous le commençons aujourd'hui. Nous allons lire les versets 11 et 12 aujourd'hui, qui vont camper un peu le périmètre de notre travail. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine. Et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Alléluia. Amen, amen, amen. Ici, l'Éternel nous fait étalage de son plan d'action. Il nous fait rentrer, prendre connaissance des actions qu'il a définies d'entreprendre dans nos vies. Il nous fait part de sa part d'action qu'il va faire. Dans les versets 2 et 3, nous avons, dans les versets 2 en particulier, nous avons pris connaissance des instructions qu'il nous donnait. C'est notre part qu'il nous demande de faire. Ce sont des instructions directes qu'il nous donne. Il nous dit, élargissez l'espace de votre tente. Qu'on déploie des couvertures de ta demeure. Il nous dit, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Ce sont des ordres. Ce sont des instructions fermes que l'Éternel nous dit de faire, d'accomplir. Donc, c'est notre part. Dans le verset 3 d'Ésaïe 54, il nous fait part de ce qu'il veut faire avec nous. Ce sont ses promesses. Il dit, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Voilà ce plan de Dieu. Voilà ses promesses dans nos vies. Voilà ses objectifs là où il veut arriver avec nous. Il veut faire ces choses parce qu'il a, il a tant de ses actions, quelque chose. Lui, il veut aller quelque part, il a un plan. Et en cette saison, il veut vraiment que nous changions de statut. Il veut que nous déployons, que nous sortons de nos sentiers battus et que nous avançons avec lui. Nous avons décortiqué tout ça dans les messages 2 et 3. Vraiment, nous avons vraiment travaillé tout ça. Donc, ceux qui n'ont pas suivi ces premiers messages et qui prennent éventuellement le quatrième message en cours de route, vraiment, je les exhorte véritablement à acquérir les CD de ces premiers messages. Question de se mettre en train, question de comprendre de quoi nous parlons pour pouvoir saisir l'ensemble, la quintessence du message prophétique de l'Éternel pour cette année. Amen. Voilà. Donc, dans ces passages 11 et 12, l'Éternel, après nous avoir rassuré par rapport à la restauration qu'il entrepris de faire en nous, là il s'ouvre complètement et il nous donne ses actions, il nous dit comment il va agir, il nous met en confiance par rapport à sa collaboration, par rapport à son partenariat qu'il veut établir avec nous. Il dit, j'ai ma part à faire, je vous garantis que je vais le faire. Et décortiquons, essayons de comprendre. Nous avons lu cela et les mots semblent, quand on lit des choses comme ça, on dit waouh, mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? L'Éternel dit, je garnirai tes pierres d'antimoine. Je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et tout ton enceinte de pierres précieuses. Ça a l'air d'être des bonnes choses. Ça, c'est clair. Quand nous regardons, Dieu ne donne que des bonnes choses de toute façon. Mais ça a l'air d'être des bonnes choses. Mais est-ce que nous y comprenons quelque chose? De prime abord comme ça, nous ne saisissons pas tout à fait la quintessence. Donc, il est important, il est intéressant. Moi, je me suis dit, non, il faut que j'aille au fond. Il faut que j'aille à la deuxième, troisième dimension de compréhension de ce message. Il faut que je saisisse ce que l'Éternel veut faire pour moi. Parce que si je ne comprends pas là où il va, je ne réussirai pas à marcher dans ses voies. Il faut que nous percevons, que nous comprenions ce que l'Éternel veut faire. Comme ça, quand on les verra paraître devant de nous, nous les identifierons et nous marcherons. Parce que les commandements, quand l'Éternel dit, celui qui obéit à mes commandements, celui qui le met en pratique dans sa vie. Vraiment, moi, je serai ceci. Mais pour obéir à quelque chose, il faut avoir compris l'instruction qui t'est donnée. Pour les mettre en pratique, il faut avoir, il faut être approprié du mécanisme de la mise en pratique. Il faut avoir compris les actes qu'il faut poser pour ça. Quand nous n'avons pas la compréhension de ces choses, nous avons la difficulté pour mettre en pratique quelque chose. Il y a un proverbe, une parole de sagesse que le sage de la Bible, Salomon, nous dit dans les proverbes, je n'ai pas le passage clair en tête, mais qui dit que le chemin de l'insensé, le travail de l'insensé lui paraît difficile, tout simplement parce qu'il ne connaît pas le chemin qui le conduit à la ville. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu ne sais pas les tenants et les aboutissants de quelque chose, quand tu ne sais pas quelles sont les étapes après les étapes après les étapes d'une action à faire, Tu es complètement bête. Tu parais comme un insensé, quel que soit ton niveau d'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence de cette chose, tu ne peux pas l'accomplir. Donc, il est important pour nous ici d'aller chercher l'intelligence. Que le Saint-Esprit nous amène à renouveler notre intelligence, à nous donner l'intelligence de la révélation qui est faite là-dedans, afin que nous soyons équipés, afin que nous ayons la connaissance de ce que Dieu veut accomplir avec nous pour pouvoir enfanter le résultat. C'est fondamental. Donc nous allons, comme nous avons fait pour les autres passages, nous allons essayer de décortiquer ça petit à petit. Moi, je vais essayer de partager avec vous ce que le fruit de mon travail, le fruit des recherches que j'ai faites et le fruit de ce que l'Esprit de Dieu a déposé en moi-même. Alléluia. Voilà. Dieu dit, malheureuse battue de la tempête que nul ne console. Quand nous avons suivi la restauration, nous avons vu que vraiment l'Éternel était décidé à changer notre statut, l'Éternel était décidé de changer notre condition, comme il a changé le diabète, qu'on était malheureuse, improductive. Son corps était vraiment dans un état de faiblesse. Il nous a dit que pendant un temps, il nous avait dérobé sa face, mais que là, il avait décidé vraiment de revenir faire luire sa face sur nous. Il a dit une chose qui m'a frappée. Il a dit, comme il a fait du temps de Noé, ah, et qu'il a juré qu'il n'allait plus détruire la terre avec les eaux, il fait de même avec nous. Il jure. Oh. Il a dit dans sa parole, je vais citer, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. C'est dans le verset 9 qu'il affirme ces choses. Quel que soit ce qui arrive, il a juré en cette saison de ne plus nous menacer. Il a juré en cette saison d'accomplir des choses avec nous. Alléluia. Donc, quand il dit ici, quand il commence, il dit malheureuse battue de la tempête et que nul ne console. Moi, je dis, oui, c'était vrai avant. C'était vrai. Mais là, l'Éternel a résolu de faire autrement. Pourquoi? Parce qu'il continue, il dit malheureuse, oui, tu étais malheureuse avant, battue de la tempête, nul ne te consolait. Mais, ah là là, quand l'Éternel dit mais, ça veut dire que les choses vont changer. Amen. Il dit mais, voici. Je veux que nous arrêtons un moment sur le mot voici avant de continuer ce que nous allons lire. Le voici détermine le temps. Nous avons remarqué que tout le paragraphe, je l'expliquais dans les passages, hein, les raisons pour lesquelles l'Éternel parle au futur simple, c'est parce que c'est conditionnel. C'est parce que tout ce qu'il nous dit là ne prendra place que lorsque nous aurons mis en pratique les instructions qu'il nous donne au verset 2. C'est pour ça que c'est la forme du passé simple. C'est un de futur simple, autant pour moi. C'est un futur, mais en fait, qui est déjà dans le présent. C'est un futur qui est disponible. Ça veut dire que toutes ces choses sont libérées dans le surnaturel. Toutes ces choses, Dieu les a déjà établies. En lui-même, il sait que c'est ce qu'il va faire. Mais que l'ouverture des cieux, l'ouverture permettra le déversement de ces choses que parce que nous aurons nous-mêmes mis en pratique les instructions du verset 2. Élargir l'espace de la tente, allonger nos cordages, affermir nos pieux. Alléluia. Donc, quand il dit voici, c'est que c'est maintenant, c'est arrêté, c'est déjà fait. C'est dit et c'est déjà prévu, c'est déjà apprêté, c'est déjà établi dans le surnaturel. Dieu a parlé, il ne reviendra pas là-dessus parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Sa bouche ne bégaye pas. Il dit voici. Et ce qu'il va te décrire dans le bas, c'est ce qu'il a entrepris de faire. C'est ce qu'il a même déjà fait dans le surnaturel et il nous explique seulement les choses qui sont établies. Alléluia. Nous allons rappeler ici aussi qu'il s'agit d'une. Que l'image qui est prise ici, c'est qu'il s'agit d'une. De bâtir une tente, d'élargir l'espace d'une tente, c'est-à-dire d'une demeure. Donc nous sommes en train de bâtir une demeure, de bâtir une case. Donc il s'agit ici des actions qui vont concerner l'action de bâtir avec Dieu. Ce que tu es en train de bâtir, le projet que tu es en train de monter, ce que tu es en train d'entreprendre en cette saison, tu le bâtis en partenariat avec Dieu. Ce qui va suivre, les points que nous allons détailler dans la suite, nous campent simplement dans la façon dont Dieu bâtit avec ses partenaires. Dieu établit un partenariat avec toi, un partenariat de croissance avec toi en cette saison. Dieu veut aller plus loin avec toi en cette saison. quel que soit le projet qu'il t'a mis dans le cœur, si tu as la ferme assurance que ce projet vient de Dieu, Dieu t'explique ici comment il va fonctionner avec toi. Afin que si tu fais ce qu'il t'instruit de faire, vous arriverez au bout. Tes objectifs seront atteints. Les objectifs de Père seront atteints. Alléluia. Et si nous parlons de bâtir, nous savons que pour bâtir solidement, même dans le monde, c'est-à-dire dans le naturel, pour construire un immeuble, une maison, pour un bateau, pour construire quelque chose solidement, la qualité des matériaux est importante, autant dans la solidité, dans la résistance, dans l'esthétique, que voilà. Ça me fait penser ici, lorsque Salomon devait bâtir le temple. Alléluia. On nous décrit dans les divers chapitres de ce livre du roi que comment Salomon s'y est pris, comment il s'est allié à ceux qui possédaient les bois de cèdre, du teck, tout ce qui était nécessaire, solide, consistant, il les faisait venir de loin. Il arrivait à trouver une stratégie, un partenariat, un troc, un échange pour pouvoir acquérir le matériel le plus solide, le plus adapté pour que le temple soit fait de façon splendide. C'est pareil, l'Éternel va prendre ici les images, beaucoup d'images de sa création. Vous savez, l'Éternel a déversé dans la création qu'il a faite toute sa nature de beau, de périn et de résistant. Nous allons beaucoup parler de pierres précieuses, parce que dans mes études, j'ai remarqué la place qu'avait la pierre précieuse, qu'avait la pierre même seulement, parce que souvenez-vous, de la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'homme. Mais de la pierre précieuse, parce que ça a une notion particulière de l'Éternel. Nous en ferons quelques références ici. Mais une étude sur les pierres dans le royaume de Père font partie d'un message particulier, un autre message que je fais en parlant notamment du pectoral. Mais ça, je n'ai qu'une parenthèse, je la referme tout de suite. Et je dis, nous allons donc examiner le processus que l'Éternel veut nous faire comprendre pour bâtir avec lui. Alléluia. Il nous dit, voici, première chose, je garnirai tes pierres d'antimoine. Oh là là, je garnirai tes pierres d'antimoine. Voilà une phrase. Je vous assure, quand moi je regarde une phrase comme ça, je dis, il n'y a que deux mots dans cette phrase que je comprends de prime abord. Je comprends que Dieu dit lui, c'est lui, de lui qu'il s'agit, lui qui s'engage personnellement. Et il y a t'es, ça veut dire mais, puisque c'est Dieu qui me parle. Ça dit ce qui est à moi. Voilà les deux mots que je comprends. Mais les autres, je n'ai pas la certitude de les comprendre véritablement comment ils sont définis. Garnirait, je ne crois pas que je comprends véritablement, j'ai envie de comprendre. Pierre, je me dis de quoi il parle, Seigneur, de quelle pierre il s'agit. Et d'antimoine, oh là là, ça c'est quoi? Pourquoi Dieu veut garnir mes pierres d'antimoine? Allons, étudions cela. Alléluia. Garnir, c'est un verbe. Nous allons expliquer sur deux faces. Garnir, la définition du Larousse français et la définition de la conception hébreuse. Parce que depuis le début, nous avons remarqué que ça nous amène à vraiment à élargir notre connaissance, à renouveler nos pensées. Alléluia. Donc, garnir ici, le dictionnaire Larousse l'explique avec trois autres verbes. Il dit c'est alimenter, nourrir. C'est apporter des éléments essentiels à la survie ou au fonctionnement de quelque chose. Quand on alimente quelque chose, quand on survit, même nous, quand nous mangeons, c'est parce que nous devons apporter à nous des éléments nutritifs qui sont fondamentaux au fonctionnement de notre corps, à la vie et à la survie de notre corps. Amen. Donc, le dictionnaire Larousse dit garnir, bon, c'est alimenter. C'est accompagner. Accompagner, quand on est accompagné, on n'est plus seul. On unit, on mélange à autre chose pour que désormais, ces deux éléments ne fassent plus qu'un. Waouh. Il me dit garnir, c'est accompagner. c'est mettre deux choses ensemble qui désormais ne vont plus que faire une seule chose. J'ai dit, waouh. Ça m'a tout de suite fait penser aux personnes qui ont des projets de famille avec Dieu, aux personnes qui sont dans l'attente avec Dieu de bâtir une famille, de trouver un conjoint. Dieu dit qu'il garnira. Donc, l'accompagnement est prévu là-dedans. Dites amen, amen. Le Larousse nous dit, c'est décoré ou orné. Et ça signifie additionner des supports pour rendre au final quelque chose de plus agréable à voir, à regarder, de plus esthétique. Décoré, c'est tu as quelque chose et si tu viens ajouter d'autres éléments dessus dans le but de le rendre plus joli, dans le but de l'embellir, c'est ça décoré. Donc c'est aussi une dimension du garnissage. Mais il y a le premier mot qu'il utilise, moi j'ai gardé ça pour la fin parce que ça prend tout la quintessence de ce que Dieu veut nous dire. C'est le mot pouvoir. Le dictionnaire Larousse nous dit que garnir, c'est pourvoir. Pourvoir. Le verbe pourvoir est un mot qui est très particulier dans la parole de Dieu. C'est carrément un nom de Dieu qui définit une des facettes de sa nature. C'est le mot gérer. Nous savons dans les noms de Dieu, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, l'Éternel qui pourvoit. Il a décliné cette nature à la montagne, Horeb. Lorsqu'il avait demandé à Abraham de sacrifier Isaac, vous vous souvenez de cette histoire? Et sur le chemin, quand Isaac a demandé à son père, nous allons comme ça à la montagne, tu as le feu, tu as le bois, tu as tout, où est l'agneau que nous allons sacrifier? Et Abraham lui a dit, Dieu pourvoira l'agneau. Alléluia! Dieu pourvoira l'agneau. Et ça t'a manqué? Nous nous souvenons que quand il a voulu faire le sacrifice, Dieu a pourvu l'agneau. L'ange a arrêté sa main et l'ange lui a dit, voilà l'agneau, pris par les cornes dans le buisson. Donc, toi. Et Abraham a bâti un autel et a dit, c'est le lieu où Dieu, c'est à la montagne que Dieu se pourvoit. Alléluia, Dieu a pourvu à cette montagne. Jéhovah, Jireh. Et c'est ce mot, Dieu dit, le dictionnaire nous explique que garnir, c'est pourvoir. Et nous, quand on revient dans la dimension spirituelle, on comprend, on dit, waouh, celui qui donne ce qu'il faut, ce qui est parfait pour accomplir sa mission, c'est le Jéhovah. J'irai, je suis le pourvoyeur, nous dit-il. Alléluia. Et pourvoir, c'est donner pouvoir. Ici, quand Dieu dit « je garnirai tes pierres d'antimoine », quand on s'arrête sur garnir, moi je comprends tout de suite qu'ici il s'agit d'une notion de complémentation. J'ai appelé ça la notion de complémentation ou la loi de la complémentation. Il s'agit du principe que Dieu a dans sa dimension de celui qui pourvoit, d'ajouter quelque chose à autre chose pour la compléter, pour l'améliorer, pour l'enjoliver, dans le but de rendre la chose initiale beaucoup plus adéquate, beaucoup plus efficiente, plus optimale, pour obtenir un meilleur résultat, une plus grande utilité, un plus grand rendement. Voilà la notion de la complémentation que Dieu nous garantit ici. Donc Dieu prévoit de doter et de compléter nos pierres. Souvenons-nous que Paul nous dit dans Hébreux 11, 6, je cherchais le verset parce que j'avais envie de que or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bon, Paul parlait de la foi et nous-mêmes nous savons que l'Éternel nous a instruits, ordonnés d'affermir nos pieux. Et quand nous étudions nos pieux, nous avons vu que l'un de nos pieux que nous devons affirmer était notre foi. Alléluia! Parce que si tout ce que nous disons là n'est pas porté par notre foi, nous n'allons rien obtenir. Donc sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia! Et Dieu dit ici qu'il garnira. Il va garnir nos pierres. Moi, je retiens ici seulement que Dieu pourvoira. Alléluia. Quoi et de quelle façon nous allons étudier cela? L'approche hébraïque du mot garnir, ici c'est rabat. Et ça a une autre ça a une dimension qui complète largement. Ça veut dire s'étendre, se coucher, se reposer. Ah, quand je regarde ça, je dis waouh. Dieu nous dit ici, reposez-vous. Soyez dans le repos, c'est-à-dire pendant que vous travaillez avec moi. Soyez dans le repos. Ça me fait me souvenir que Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur, nous a toujours dit, vous qui êtes fatigué, venez à moi, que je vous donne du repos. Ça ne veut dire pas aller dormir, ne faites plus rien, non. Ça veut dire que ceux qui travaillent en moi, ceux qui travaillent assis en moi, travaillent dans le repos. Et j'ai compris que c'est de ce repos que l'Éternel nous parle dans Rebecca, quand il dit qu'il va garnir. Il nous dit, blottissez-vous en Christ, croyez en moi, et œuvrez avec moi dans le repos. De quel repos? Ça veut dire que le regard de Dieu traduit ici le désir de Père, le désir que Père a de faciliter les choses. Dans le partenariat que nous allons entreprendre avec lui, il nous dit, soyez dans le repos, travaillez avec moi, la conscience tranquille. Je vais aplanir vos sentiers, je vais alléger les difficultés que vous avez. Concernant vos pierres particulièrement, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Ici, dans le garnissage, Dieu veut que nous soyons dans le repos, que nous soyons tranquilles dans les préoccupations qui peuvent nous animer concernant nos pierres. Parce qu'il dit, ce sont nos pierres qu'il va garnir. Souvenez-vous, moi je veux revenir sur ça. Souvenez-vous que quand il nous a donné instruction, quand il nous expliquait les promesses qu'il allait avoir avec nous, en nous disant que nous allons nous répandre à gauche et à droite, quand nous travaillons cette promesse, nous voyons que répandre aux yeux de Dieu, ce n'était pas de tout repos. Dans ce texte-là particulièrement, il nous incitait, il nous faisait voir que nous devons user d'intelligence et de stratégie pour nous frayer des brèches, que nous devons briser des résistances, que nous devons agir avec violence dans sa parole et dans sa foi pour pouvoir avancer. Souvenez-vous. Donc, il ne s'agit pas là du même repos. Pour l'action qu'il nous demande de mener, nous devons nous lever et nous devons agir. Écoutez encore bien ce message. Mais ici, en ce qui concerne les pierres, Dieu nous rassure. Dieu dit, moi, je compléterai. Moi, je pourvoirai. Moi, je vais établir. De ce côté-là, moi, je vais contribuer à ce que rien ne manque à vos pierres. Dieu nous assure qu'en ce qui concerne nos pierres, il pourvoira en toutes choses. Et il alimentera lui-même les comptes de nos besoins. Alléluia. N'a-t-il pas dit dans sa parole déjà qu'il pourvoit tous nos besoins selon ses richesses? Que si nous avions besoin de quelque chose que nous le lui demandons, par les prières, par les supplications, et il pourvoira. Parce que Dieu est le même. Il n'y a pas une onde de variation en lui. Dieu vous précise ici que je vous rappelle que c'est comme ça que je fonctionne. Moi, en cette saison, je garnirai. Je garnirai vos pierres. Alléluia. Amen, amen. Merci, Éternel, parce que tu nous mets en confiance. Merci, Seigneur, parce que quand tu dis, tu fais. Merci, Seigneur, parce que nous saisissons, ô Père éternel, cette révélation que tu nous donnes aujourd'hui pour œuvrer, pour marcher avec toi, pour accomplir, Seigneur, les œuvres que toi, tu nous donnes d'accomplir. Oui, Père éternel, nous apprécions le partenariat que nous passons ensemble. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Alléluia. Mais de quelle pierre s'agit-il? Dieu dit, je garnirai tes pierres. Je me suis dit, ouais, ce sont mes pierres. Mais de quelle pierre il parle? De quelle pierre s'agit-il? Faisons un tour de ça. Et soyons fixés sur ce que l'Éternel appelle pierre. Soyons fixés sur ce qu'il faut que nous disposons pour que lui, il les garnisse. Parce que n'oubliez pas qu'il a dit tes pierres. Il n'a pas dit je garnirai les pierres dans tes mains. Non, parce que les pierres, c'est comme ça, c'est indéfini. C'est en général. Non, Dieu a dit tes pierres. Je garnirai tes pierres dans tes mains. Ça veut dire que c'est quelque chose. Dieu veut travailler sur quelque chose que nous possédons, qui est à notre niveau. C'est nous qui devons chercher ces pierres. C'est nous qui devons établir ces pierres-là de façon à ce qu'il les garnisse. Il ne viendra pas les établir pour toi. Mais toi, tu vas les établir et lui va les garnir. Alléluia. C'est important que chacun sache, pardon, dans la collaboration, dans le partenariat avec l'Éternel, que chacun sache quelle est la part, sa part à faire. Parce que moi, je dis toujours, inutile d'essayer de rappeler à Père ce qu'il a à faire. Père, fait ce qu'il a à faire. S'il a promis qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Mais nous, nous devons à chaque instant nous interroger sur ce que nous, nous avons à faire. Afin de solliciter par nos prières, par nos supplications, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit agissant en nous, pour nous rendre capables de les faire. Afin que Dieu fasse sa part. Alléluia. Ici, Pierre s'efface. C'est une roche naturelle. Nous savons que la pierre, ce sont des roches naturelles. C'est le roc, c'est la terre. Ou ce sont des fragments de minéraux. La pierre aussi, ce sont des blocs de ce roc qui sert de matériaux aux constructions. N'oublions pas qu'ici, recampons-nous dans le contexte, au moment où ces textes sont écrits, et tout, il y a une façon de construire, il y a une seule façon de bâtir. Soit tu bâtissais des tentes, c'est-à-dire tu as des pieux, tu as des cordages, et tu as des couvertures qui sont tendues dessus, des couvertures de peau, des couvertures de fil. Soit tu as des maisons faites de pierre, qui sont un enchevêtrement de blocs de pierre superposés. Souvenez-vous des pyramides. Ésaïe intervient et nous parle là. Le temps de l'Égypte, le temps des peuples anciens, tous sont déjà passés et ils bâtissaient. Mais on sait très bien que le peuple égyptien est un peuple de bâtisseurs, on le sait. Ils bâtissaient déjà et des structures que jusqu'à ce jour, on essaie encore de percer le mystère de ça. Et nous savons que c'était des blocs de pierre. Les gens se demandent encore aujourd'hui comment ils faisaient alors qu'ils n'avaient pas des grues, alors qu'ils n'avaient pas le matériel sophistiqué qu'il faut. Comment ils faisaient pour déplacer tout ça? Mais c'est l'ingéniosité que Dieu a mis en l'homme. Parce que quand tu crois en Dieu, quand tu ne crois pas en Dieu, tu as ce dépôt en toi. Parce que Dieu dit qu'il ne se repent pas de ses dons. Il a fait l'homme. Il a fait l'homme. Il n'a pas dit qu'il a fait le croyant à son image. Il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc, ce sont des matériaux de construction, etc. Donc, ici, définir les pierres, c'est l'ensemble de toutes les choses, de tous les le matériel, de toutes les choses qui sont de nature matérielle, qui sont de nature naturelle, dont tu as besoin pour accomplir le projet que tu as en cours. Quelle que soit la nature du projet, quel que soit l'axe du projet, ça peut être une entreprise que tu veux bâtir, ça peut être un foyer que tu veux bâtir. Ça reste pas moins un projet. Ça peut être un ministère que tu veux bâtir. C'est un projet. Ça peut être un petit commerce. C'est un projet. Ça peut être une promotion sociale. C'est un projet. Ça peut être une promotion professionnelle. C'est un projet. Ça peut être ton propre projet de vie, de santé. C'est un projet. Et tout projet a une dimension matérielle et naturelle. Tout dans un projet n'est pas de nature spirituelle. Ici, Dieu veut que nous nous occupions de l'aspect matériel des choses, de l'aspect naturel des choses. De quoi as-tu besoin pour ton projet? Dieu définit ici les pierres comme étant des besoins clairs, détaillés, exprimés de ton projet. Cela nécessite que tu fasses une étude, une évaluation de ton projet, de la mission que tu as nommée. Je vous assure, même quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va vendre les beignets, c'est un projet qui nécessite une étude. Il y a la parole de Dieu, il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit, est-ce que quelqu'un peut bâtir une maison sans s'être assis et l'avoir évaluée jusqu'à être sûr qu'il peut finir avant de la commencer? Je paraphrase un peu comme ça parce que c'est ce que j'ai compris de ce message, de cette instruction. C'est un peu ce que Dieu dit ici. Je dis que tu as le projet de bâtir avec moi. Oui. Bon, t'es-tu assis? Assieds-toi, considère ton projet, étudie ton projet, évalue ton projet et définis tous les éléments qui la constituent, dont tu as besoin. Dans les détails, afin qu'elle puisse se lire couramment. Ça me fait aussi penser à un autre verset. Parce que, qui nous dit dans Habakkuk 2, parce que Habakkuk, après avoir plaidé, prié, etc. à l'Éternel, il a dit, j'étais assis à mon poste et j'attendais la réponse. J'attendais si l'Éternel allait me répondre de tout ce que je lui avais dit en prière, supplié pour ce peuple. Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu lui a dit à Habakkuk,
La prophétie là que je t'ai donnée. Ce que je t'ai dit là, je l'ai dit. Alors tu t'assois, tu l'écris clairement, mot pour mot, et tu l'affiches de façon à ce qu'elle puisse être lue clairement, de façon à ce que tout le monde puisse la lire et la comprendre. Parce que ce que je t'ai dit là, ça va arriver. Et il vaut mieux que les gens le sachent. Il vaut mieux qu'ils en soient avertis, qu'ils en connaissent les tenants et les aboutissants. C'est ce que Habakkuk 2 nous dit. Donc quand tu reçois un projet de Dieu, quand tu nourris dans ton cœur un désir que Dieu a mis, assieds-toi, écris-le, détaille-le, étudie-le, évalue-le, et mets-le noir et blanc sur toi, afin que ça puisse se lire clairement, afin que toi-même tu puisses la lire clairement, que tu puisses, dans tes prières d'emprunt, présenter tes pierres parce que tu les connais, tu les as identifiées, que tu puisses les présenter à Père pour qu'il puisse les garnir dans tes moines. Parce que c'est ce qu'il a dit, je garnirai vos pierres dans tes moines. Donc présente tes pierres à l'Éternel. Comment vas-tu présenter tes pierres à l'Éternel si tu ne les as pas identifiées toi-même? De façon courante, on nous apprend quand nous allons à l'école, dans le monde et tout, quand tu veux créer quelque chose, on te dit, as-tu fait l'étude de marché? As-tu fait l'étude de projet? Mes frères et mes sœurs, même nous qui sommes dans le corps, c'est fondamental que chacun comprenne que les études de projet doivent se faire. Parce que certaines décisions doivent être prises, certaines orientations doivent être prises. Les gens pensent que c'est seulement valable lorsque l'on veut créer une entreprise. Moi, je dis, erreur. Si tu as un projet d'enfantement avec Dieu, je dis, tu es marié, vous n'avez pas d'enfant, tu as un projet d'enfantement avec Dieu, d'enfant avec Dieu, sache que c'est un projet. C'est un projet d'élargissement de la famille. Et c'est un projet comme tout, tu dois d'abord en étudier les contours. Tu dois toi-même définir déjà quelles sont les zones de limitation. Quels sont les axes? Ça demande quoi? Ça demande quoi? Ça demande des visites médicales? Ça demande des sous pour faire des examens? Ça demande quoi? Ça demande une alimentation particulière? Ça demande de changer la façon de vivre? Ça demande d'être au repos? Tout cela, c'est important. Si tu as fait le tour, tu présenteras tes pierres à l'Éternel. Ça demande quoi? Ça demande un diagnostic précis. Parce que si tu as vu là où l'ennemi a attaché le nœud, a fait le nœud, tu pourras présenter ce nœud à l'Éternel. C'est une des pierres qui doit servir à bâtir ce que tu veux bâtir avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, c'est valable. Et Dieu nous dit qu'il va garnir nos pierres. Donc c'est à nous de nous asseoir et d'étudier tout ça pour que dans chaque projet, nous soyons la connaissance des pierres qu'il nous faut. Comme ça, quand nous nous lèverons, quand nous prendrons notre temps seul avec Dieu, nous saurons avec exactitude ce que nous lui présentons. Il a dit, demandez-moi. Vas-tu demander des choses que tu ne sais pas? Vas-tu demander des choses dont tu n'es pas conscient? Ce ne sera pas des prières ferventes. Parce qu'il dit qu'il n'y a que les prières ferventes du juste qui sont. Et moi, je dis, la ferveur, là, ce n'est pas l'intensité du temps que tu donnes à ta prière. C'est la justesse de la demande en conformité avec la situation et la parole de Dieu. Ça, c'est une prière fervente. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Saint-Esprit de Dieu, maintenant que nous avons la clarté de ce que Père entend par Pierre, oh Père, Saint-Esprit de Dieu, donne-nous, enseigne-nous, équipe-nous, rends-nous capables de les identifier, rends-nous capables de les évaluer. Éclaire-nous nos projets. Fais-nous avoir la quintessence, la pleine connaissance de toute la dimension du projet, afin que nous puissions identifier les pierres qu'il nous faut, nos besoins réels pour pouvoir les présenter à l'Éternel. Qu'ils soient financiers, matériels, naturels, oh Père. Que ce soit de l'ordre des décisions, que ce soit de l'ordre de changement de mode de vie. Rends-nous capables de les identifier et de les présenter à Père au nom de Jésus. Merci, oh Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous équipe. Alléluia. Maintenant que nous savons ce que garnir veut dire. Maintenant que nous savons ce qu'il faut aller identifier à la place des pierres, Père nous dit qu'il va les garnir d'antimoine. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tous les jours que nous avons l'antimoine. Ce mot-là, même moi qui suis un scientifique, ça ne m'a pas parlé tout de suite. Donc je suis allée faire des recherches et voilà ce qui en sort. C'est quoi l'antimoine? De quoi est-ce que Père veut garnir nos pierres? Écoutez, l'antimoine prend ici trois. On va le définir dans trois axes.
et c'est parlant. L'antimoine, c'est la matière, c'est une matière minérale. C'est une matière que l'on utilisait pour faire les peintures de phare à yeux. C'est une matière qu'on utilisait à la base pour faire ce qu'on appelle le kohl, les phares à paupières, qui est noir, brillant. C'est ça même qu'on utilise encore aujourd'hui dans nos crayons noirs, dans les grands laboratoires, pour faire ce trait que les orientaux utilisent pour embellir. Ça sert au maquillage, ça sert à rendre à l'esthétique à quelque chose, à un visage, à des mains, à des pieds, etc. C'est la première définition d'antimoine, c'est ça. Donc c'était une matière, on appelait antimoine dans le temps, la matière que l'on utilisait pour embellir les choses. De noir brillant, de noir scintillant. Alléluia. Ok. Et c'est aussi un élément chimique. C'est un élément chimique que l'on utilisait à l'époque à la fois comme médicament, comme colorant, comme alliage, et qui pouvait aussi être un poison. Et que la nature de poison de cet élément lui permettait d'être un médicament, utilisé un peu comme un antibiotique, non, comme un antiparasite, c'est ce qu'il y a. L'antimoine était utilisé à l'époque, comme un... De son caractère de poison qu'il était pour les parasites, on l'utilisait comme un médicament dans les maladies infectieuses à cette époque qu'on appelait le typhus. On mourait beaucoup de typhus. Quand tu avais le typhus, déjà tu étais purulent, pustulant, tu étais chassé du milieu des hommes, tu étais mis à l'écart et tu te laissais mourir parce que ça te bouffait complètement. Vous vous imaginez? Et quand le tif, quand l'antimoine a été découvert comme ça, on l'a utilisé pour quand on faisait boire ou quand on couvrait le corps du malade avec l'antimoine, tous les parasites étaient détruits et le malade recouvrait sa santé. N'est-ce pas merveilleux ça? Alléluia. C'était utilisé comme un alliage à l'époque. Un alliage, je vous ai dit tout à l'heure que d'en définir le Larousse nous disait que c'était aussi accompagner, mettre ensemble pour ne faire que. C'est ça le mot alliage. Être un alliage, ça veut dire c'est une substance que l'on ajoute à une autre substance pour en former un troisième qui aura une nature différente des deux autres, mais qui va lui conférer une solidité. Et le fait qu'il était utilisé comme alliage à certains matériaux, notamment le fer qui est corrosif, le fer qui est destructible avec le temps, le fer qui se rouille, a fait que quand on a découvert l'antimoine, on a découvert en fait une substance qui permettait au fer, à l'acier, d'être inoxydable, d'être non soumis au temps, d'avoir une dureté et d'une résistance particulière que le fer, lui, n'avait pas. On l'a utilisé comme alliage, surtout pour fabriquer des armements. Parce que quand on a commencé à fabriquer des armements, on s'est rendu compte que les matériaux que l'on utilisait pour fabriquer, une fois que l'on tirait une boule de canon ou que le pistolet tirait une balle, le canon se fendait. Parce que la pression qu'utilisait la balle pour passer le canon était tellement puissante que le pistolet ou le char ne résistait pas. Et c'était embêtant, parce que si tu fabriques tout un char pour aller à la guerre, pour conquérir, et que ça ne peut tirer qu'une seule fois, et que tu sois obligé d'aller fabriquer un autre, tu n'es pas prêt de gagner la guerre, là, mes frères et mes sœurs. Donc, d'avoir trouvé l'antimoine à cette époque avait permis de fabriquer et des canons de fusils et des solides qui ne brisaient plus, qui avaient une dureté qui ne brisait plus, qui avaient la Oh là là, merci Saint-Esprit, tu m'aides. On utilisait pour des vases que l'on pose pour utiliser pour les éditions, etc. Toutes ces vases-là étaient des vases. Et c'est en ça que les vases, on a commencé à dire que il y a des vases vides qui sont de bois ou de terre, mais il y a des vases d'œuvres utiles à l'Éternel.
C'était des vases qui étaient enrichis en antimoine. Et ça donnait une coloration d'argent comme ça au vase, des teints comme ça au vase. Et ça rendait le vase inaltérable. Alléluia. Oh my God. Et la quatrième dimension de l'antimoine, c'était d'être un colorant d'embellissement, un colorant, un revêtement. Et lorsque l'on recouvrait les substances, les murs, on construisait et les pierres, on revient sur les pierres, et les pierres étaient comme ça badigeonnées d'antimoine. Parce qu'on s'était rendu compte que ce que l'antimoine recouvrait était protégé. Ce que l'antimoine recouvrait était plus exposé aux effets du soleil, du temps, du vent, de l'érosion. Ça le couvrait et ça lui donnait une... Et ça servait d'isolant contre tout ce qui pouvait être agent agressif de l'extérieur. Oh my God! Vous vous rendez compte de quoi l'Éternel nous parle? Mes frères, mes sœurs, est-ce que ça vous parle comme moi ça me parle? Dieu dit, je garnirai tes pierres d'antimoine. C'est-à-dire que toutes tes pierres, je vais les rendre d'abord brillantes et belles. Esthétiquement, elles seront belles. Je vais leur donner une dureté et une résistance. Elles seront indestructibles pour les protéger des intempéries. Je vais les soigner, je vais les débarrasser de tout ce qui est parasite, de tout ce qui conduit à la mort là-dedans. Moi, je vais mettre de l'antimoine et l'antimoine va venir détruire tout ce qui pouvait détruire, tout ce qui est germe de destruction dans les pierres que tu vas utiliser pour bâtir avec moi. Alléluia. Je vais les préserver de l'agressivité extérieure. Les rayons de soleil ne feront rien. Les rayons, pas tout le soleil. Vous savez que dans les rayons de soleil, il y a des rayons, les UV et les gamma et les infrarouges qui sont dangereux pour ce qui est de notre nature ici, qui causent le cancer sur les peaux, etc. Et c'est comme ça que ça agresse aussi. Quand vous voyez un mur qui a changé de couleur, c'est parce qu'il a subi l'agression. La peinture a subi l'agression des UV. Alléluia. Dieu dit qu'il va mettre les antimoines dans tes pierres. Qu'il fasse chaud, qu'il neige, qu'il vente. Tes pierres seront là, solides, avec la même beauté qu'au commencement. Aïe, vraiment. Elle sera préservée des effets du temps qui passe. Elle sera isolée de tous les agents agressifs. Du feu, de l'érosion, des pustules, des parasites. De la fragilité sera comme le roc. L'Éternel pourvoira tout cela afin que ce qui est bâti soit pérenne. Dieu veut donner une dimension de pérennité à tout ce que tu vas utiliser pour bâtir avec lui. Dieu pourvoit lui-même à tous les besoins qu'il faut. Il remplit les comptes. Il détruit la mort là où il y a la mort. Il défait les nœuds, il détruit les parasites, il empêche les agressions. L'œuvre de l'ennemi n'aura plus voix. Oh, notre Seigneur Jésus a dit que le séjour des morts ne prévaudra plus. C'est en ça que l'Éternel met des plans comme ça. Parce que lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Il dit que quand il dit, il fait. Alors mes frères, mes sœurs, pour chaque projet que nous avons amené avec l'Éternel, identifions les éléments de base. Identifions nos besoins. Clairement, ce sont nos pierres. Et présentons-les à Père. Présentons-les à Père dans la prière, dans la vénération. Présentons-les à Père. Dites, Père, voici nos pierres. J'ai évalué les besoins de mon projet. J'ai étudié, j'ai identifié mes besoins. Les voici au Père éternel. Garnis-les, Seigneur. Garnis-les. Dans le nom de Jésus. Garnis-les d'antimoine. J'ai compris c'est quoi l'antimoine. J'ai compris que tu me façonnes une œuvre pérenne. J'ai compris que mes pierres seront établies sur le roc. Elles seront indestructibles. Et que rien ne pourra, ni l'œuvre de Satan, ni l'œuvre des maladies, ni l'œuvre des parasites, ne pourra les atteindre, les effleurer. Merci au Père éternel. Merci pour cette grâce. Merci pour cette révélation en cette saison. Merci au Père éternel. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout. Nous te célébrons parce que tu es digne. Ce que tu dis, tu fais, Seigneur. Merci parce que ça fait grandir notre foi. Merci parce que ça nous motive au Père éternel pour aller de l'avant, Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, dans la mission que tu nous confies en cette saison.
Merci au Père éternel. Merci pour mes frères. Merci pour mes sœurs. Merci pour moi-même. Merci pour ton assemblée, tes assemblées dans le monde entier. Merci au Père pour tous ceux qui sont engagés avec toi en cette saison dans un programme, Seigneur, de conquête, d'expansion, d'élargissement dans le nom de Jésus. Merci pour le corps du Christ. Merci pour Israël. Merci pour Abraham, notre Père, qui t'a obéi et qui a permis que tout cela soit passé. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Que toute la gloire te revienne. Aujourd'hui et à toujours. Amen.